qu'a vu Habacuc, le prophète. Dans la version Darby, si on regarde la petite note, on voit qu'il est écrit avant Christ, environ 612. Qu'est-ce que ce livre, écrit il y a plus de 2600 ans, peut bien nous apprendre? Un petit clic. La diapo suivante. Je sais pas. Ah, il y a eu deux clics. Voilà. Nous trouvons, merci. Merci Catherine. Nous trouvons dans le chapitre 3 d'Habacuc la description suivante. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Alors là, subitement, le livre d'Habacuc prend une certaine tournure d'actualité. En effet, la France a connu récemment une période de pénurie. Pénurie de moutarde, de pièces pour quand on veut faire réparer quelque chose, pénurie d'essence. Et on parle actuellement d'une pénurie possible d'énergie dans les mois qui viennent. Alors la question de ce matin, c'est si vous saviez de façon certaine que cette pénurie se généralisait dans les prochains mois ou dans les prochaines années, comment réagiriez-vous? Certains pourraient dire, oh, on verra, on pourrait dire c'est un peu la politique de l'autruche. D'autres vont dire, oh, le Seigneur nous enlèvera avant. Et d'autres vont dire, ben, moi je vais faire des stocks hein, dans ma maison. Hein. Et puis, ou dans mon appartement. Et d'autres, ils vont dire, ben, moi, je vais transformer ma propriété en bunker pour me préparer. Et je vous propose ce matin, donc le titre va enfin apparaître, de voir comment Habacuc s'est préparé à l'effondrement qui vient. Alors, première valeur que Habacuc va développer, premier outil. Et donc, si tu veux venir avec le sac à dos, première chose qu'on pourrait prendre dans notre sac à dos, c'est la connaissance pour nous préparer. Et alors, c'est comme la patate chaude. Après, il faut le refiler à quelqu'un d'autre.
C'est ça?
Ouais.
D'accord.
Voilà. premier élément, c'est la connaissance. faut le garder. Quelques minutes. Voilà. Est-ce que on peut avoir voilà cette connaissance, c'est la connaissance déjà de l'état moral de Juda, le peuple, la nation d'Israël, le royaume d'Israël vit un temps qu'on pourrait appeler de décomposition. On voit donc écrit dans le chapitre 1 verset 4, sauf erreur, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompu. Habacuc vit dans une société qui a perdu ses valeurs et le premier livre, les premiers chapitres du livre de Jérémie décrivent cet état si vous souhaitez donc approfondir par rapport à ce sujet. La société d'Israël, au temps d'Habacuc, se décompose de l'intérieur avant de s'effondrer. Et donc Habacuc reçoit l'annonce d'un effondrement. En fait, Habacuc n'est pas dans les souffrances pour les temps présents, mais il est dans la souffrance de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Il est écrit donc au chapitre, toujours au chapitre 1, verset 6, j'ai un peu de la peine à voir les chapitres, hein, vous me corrigerez. Voici, je suscite les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse qui marche par la largeur de la terre pour prendre possession de domiciles qui ne lui appartiennent pas. Dieu prévient Habacuc que son monde va s'effondrer. Lorsqu'il écrit son livre, le royaume d'Israël n'a plus qu'une poignée d'années à vivre. En 572 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone rasera le temple de Jérusalem, déportera la plus grande partie de la population de la ville dans un autre pays, Et si vous, dans votre vie personnelle, vous avez par exemple perdu vous avez eu un ennui de santé qui a provoqué une perte d'emploi et le départ de votre conjoint, on peut parler à votre échelle individuelle d'un effondrement de votre vie. Cet effondrement, on revient du coup à la situation de l'époque de l'État d'Israël, est voulu par Dieu. Et comme vous le voyez dans cette description, les Chaldéens ne sont pas des tendres. Et pourtant, malgré le caractère féroce de cette nation, Habacuc, ainsi que tous les prophètes, n'a pas appelé à la résistance face à cette oppression, face à cet envahisseur, mais à la soumission. Et donc c'est une position qu'on peut appeler, alors du coup ça fera plaisir à François, la non-résistance au mal, qui a valu aux prophètes, comme Jérémie par exemple, bien des persécutions, puisqu'il vivait dans une société qui au contraire a voulu se défendre contre les Chaldéens, l'invasion des Chaldéens, et c'est finalement davantage la résistance de la nation d'Israël qui va provoquer sa chute plutôt que l'existence d'une nation féroce à ses côtés. Alors nous avons ici effectivement connaissance d'un certain diagnostic, un petit peu comme quand on apprend qu'on a le cancer. Ce n'est pas du tout agréable, mais c'est nécessaire. Et donc pour résister à l'effondrement qui vient, Habacuc avait besoin de la connaissance. Et donc nous avons mis dans notre besace la connaissance. Donc si tu veux venir Marie, on va ajouter quand même quelque chose à la connaissance. On va ajouter la foi. Voilà. Et puis, du coup, c'est toujours la patate chaude. On refile à quelqu'un d'autre.
À quelqu'un d'autre.
Voilà. Voilà, voilà.
À qui je veux.
Ah, ben, à qui tu veux. Alors, nous avons dans ce chapitre 1, verset 12, cette phrase d'Habacuc, « Nous ne mourrons pas ». S'il n'y avait que la connaissance, alors le livre d'Habacuc serait décourageant. « Pauvre de nous !» disait ma grand-mère. Mais nous trouvons dans ce livre un autre aspect, la foi qui fait vivre. « Nous ne mourrons pas. » Cette parole s'est d'ailleurs réalisée à la lettre. En effet, le peuple juif existe encore aujourd'hui comme État, malgré tout ce qui s'est passé. Et ce qui se passera du temps d'Habacuc n'est qu'une petite aperçu de tous les malheurs qui sont arrivés jusqu'au peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, et pourtant ce peuple subsiste. Donc nous pouvons déjà dire que cette parole, nous ne mourrons pas, concernant les destinataires immédiats, le peuple juif, s'est réalisée. Alors pourquoi Habacuc, à l'époque, il ne savait pas du tout que ça allait se réaliser, hein, pourquoi, qu'est-ce qui a poussé Habacuc à dire nous ne mourrons pas? Qu'est-ce qu'il en savait, lui? Et les prophètes, ben oui. Et en fait, nous allons voir trois temps qui permettent d'appuyer la foi d'Habacuc, et donc notre foi. Tout d'abord, premier temps, le passé. Tu es sorti pour la délivrance de ton peuple, tu as brisé le fait de la maison du méchant. Donc dans ce chapitre 3, Habacuc en fait un petit peu, développe longuement comment Dieu a délivré son peuple dans le passé. Il y a une expression intéressante au chapitre 1, verset 12. Alors, ce n'est pas la version que j'ai choisi de vous projeter, on est en second 21, mais la version d'Arbi, dans chapitre 1, verset 12, en désignant l'Éternel, il dit « c'est le Dieu d'ancienneté ». Je trouve que c'est une belle expression. C'est-à-dire le Dieu qu'on connaît depuis longtemps. Et la nation d'Israël, Habacuc, en 600 et quelques, connaissait déjà l'Éternel depuis longtemps, depuis Abraham. Et en considérant la manière dont Dieu a agi dans le passé, comment Dieu a délivré son peuple, là on a un bas-relief qui nous parle des chars des Égyptiens, eh bien Habacuc peut fonder son espérance que de la même manière que Dieu a délivré son peuple dans le passé, eh bien il interviendra encore. Il interviendra encore, et alors Habacuc est face à une puissance considérable, la puissance des Assyriens, la puissance dominante et, on va dire, la mauvaise puissance de l'époque. Et il dit, toi qui as dépouillé beaucoup de nations, toi qui
tout ce reste de peuple te dépouilleront.
Tout ce qui reste.
Tout ce qui reste de peuple te dépouilleront à cause du sang humain répandu, des violences faites à la terre, aux villes et à tous leurs habitants.
Donc on a cette proclamation que ce pouvoir méchant qui va susciter la crainte et puis qui va faire les pages de l'actualité du temps d'Habacuc, finalement va s'effondrer. Il a l'air puissant, mais il s'effondrera. Et donc nous avons ici des temps de verbes qui sont au futur. Les œuvres des méchants ne subsistent pas, leur puissance, aussi impressionnante est-elle, est éphémère. Alors, maintenant, nous allons venir dans le temps présent. Celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui n'est pas dans le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi, le juste vit par sa foi. Donc, à l'opposé du méchant qui, finalement, dont les œuvres ne subsisteront pas, eh bien, l'Éternel oppose le chemin du juste. Le méchant contient à l'intérieur de lui-même, et du coup, si on approfondissait tout le chapitre 2, on verrait comment, à l'intérieur de ce chapitre, le prophète décrit ce qui va ronger, finalement, le pouvoir chaldéen. À l'intérieur de lui-même, il y a les germes de sa propre destruction, mais le juste vivra par la foi. La nation d'Israël sortira même transformée de l'exil et abandonnera de façon définitive les idoles. Alors du coup, en ayant ce regard sur le passé et sur l'avenir, maintenant Habacuc va énoncer des règles de conduite pour le présent. Il va énoncer ce qu'on appelle les cinq malheurs du chapitre, je crois que c'est chapitre 2. Et on va juste en lire un extrait. Malheur à qui amasse un gain illicite pour sa maison, afin de placer bien haut son nid pour échapper à l'atteinte du malheur. Ce verset fait probablement allusion aux murailles de Babylone. Elles étaient d'apparence puissante, et pourtant, le jour du danger, elles ne servent à rien. Et donc, par rapport à cette question, et toi, comment est-ce que tu réagis pour te préparer à l'avenir, si effondrement il devait y avoir? En fait, ça interroge aussi nos fondements. Car on pourrait, de la même manière que le roi de Babylone a construit un nid qui paraissait fiable et qui pourrait, pour ainsi dire, le garantir d'échapper au malheur, et finalement qui s'est révélé être une illusion, nous pourrions nous aussi, même en tant que chrétiens, fonder notre vie sur des illusions. Et donc ce verset, certes, le premier destinataire, c'est la puissance babylonienne, mais c'est aussi à nous, à attention à la manière dont on construit notre maison. Si notre maison est construite sur un gain illicite, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas droit selon la parole, la pensée et les valeurs du royaume de Dieu, alors nous allons construire nous aussi sur le sable et nous connaîtrons la même fin finalement que les méchants. Sur quelles valeurs construis-tu ta vie? Tes fondements sont-ils solides? Oui, il vaut la peine d'ajouter la foi à la connaissance, et cette foi n'est pas seulement quelque chose d'imaginaire, mais c'est aussi quelque chose qui impacte mes choix de vie ici, maintenant, aujourd'hui. Alors il est temps d'ajouter une troisième vertu. Finalement, on revient un petit peu à ce que tu nous as dit dans la réunion de prière jeudi dernier. Alors qui c'est qui a récupéré le sac? Voilà, donc on va ajouter la patience. Donc je te confie la patience, et puis, pareil, il faut faire passer quelqu'un qui va recevoir, voilà. Alors vous me direz, oui, tout ça, le passé, l'avenir, construire sa vie, c'est bien beau, mais en attendant, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à Zakan éternel. Donc là, j'ai repris aussi la version d'Arby qui me semblait mieux que la seconde 21. Jusqu'à Zakan, vas-tu tolérer au quotidien les injustices que je vis, les injustices que vivent d'autres choses, tout ce qui se passe? Donc il y a en fait une tension de l'âme, mais qui n'est pas imaginaire, qui est vraiment réelle, de la part de ce prophète dont le cœur saigne. On peut penser aussi à Jérémie ou lamentation de Jérémie par rapport à l'état moral de son peuple et de ce qui se passe, et il s'écrit jusque à quand. Et Dieu répond à l'impatience du prophète en lui demandant de faire preuve de patience. Écris la vision et grave-la sur les tables, car la vision attend encore son terme. Elle aspire à la fin et ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne manquera point. Sa foi va être éprouvée. Ce n'est pas le temps de la délivrance, mais c'est le temps de l'attente. Nous sommes dans le « encore » du verset 3. Cependant, la délivrance est certaine. Dieu enverra l'issue en même temps que la tentation. Habacuc, tu as vraiment besoin de la patience. Donc, on a récupéré la patience et on va rajouter encore une vertu. Est-ce que... voilà.
C'est Céline qui a récupéré, d'accord.
Donc, on va rajouter... Est-ce que tu as une idée ?
Je ne suis pas dans l'ordre, là.
Bon, alors on va rajouter la compassion.
Oui.
La compassion.
La compassion.
Voilà, la compassion. C'est pas tout de le dire. Est-ce qu'on parle de compassion dans Habacuc ? Ah oui, empathie, intercession. On a déjà la compassion envers ceux qui souffrent. Et cette tension de l'âme, hein, vraiment, par rapport à ce qui se passe ou ce qui va se passer. Pourquoi gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui ? On voit qu'Habacuc souffre de l'état des injustices qui sont... donc là, il s'agit d'une injustice qui est prophétisée. Hein. C'est que les Chaldéens, qui sont plus méchants que les Israélites, vont venir les engloutir. Donc Habacuc, ça le fait bondir. Hein. Il dit « mais c'est pas juste hein. ». Et donc on voit qu'il n'est pas « ha ha, vous aviez qu'à écouter la parole de Dieu, c'est bien fait pour vous ». On n'est pas dans une attitude de condamnation, mais dans une attitude de compassion envers son peuple, quand bien même ce qui arrive est amplement mérité. Donc, en fait, là, on est dans une posture d'âme où il ne se sent pas supérieur à « bon, moi, je suis le prophète, hein, je connais la pensée de Dieu, et vous, là, le peuple, vous êtes dans la fange du péché ». Et il y a une distance qui peut se créer entre le prophète et le peuple. Non, là, Habacuc, il a la compassion pour son peuple qui va passer par la souffrance. Et du coup, il intercède pour son peuple. Voilà, l'intercession, la compassion, elle se manifeste concrètement par l'intercession. Et puis, elle se manifeste aussi par l'appel à la compassion. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. On voit qu'au chapitre 3, Habacuc, ça a mouillé dans sa tête, hein, il a écouté l'Éternel, il a accepté finalement que ce qui arrive, hein, accomplit ton œuvre. Ben oui, ce qui va se passer, va se passer. Et puis voilà, donc, Dieu n'était pas tout à fait d'accord au départ que ça arrive comme ça, mais puis Habacuc évolue. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Et donc il fait appel à la compassion de Dieu. Et donc, on peut se poser cette question, quelle est ta posture à l'égard de ceux qui souffrent et qui semblent moins justes que toi ? Et si on ajoutait un peu de compassion à la foi, à la connaissance et à la patience ? Mais on va encore rajouter autre chose. Est-ce que qui c'est qui a récupéré notre sac à dos ? Voilà, donc on va rajouter la joie. Donc, valeur surprenante, hein. La joie, alors que Habacuc professe... il professe l'effondrement et il va pourtant rajouter à son carquois hein, la flèche de la joie. Alors, donc la joie, où est-ce que ça vient ? Eh bien, ça vient dans ce fameux paragraphe où il dit que finalement la pénurie vient. Hein, donc j'ai juste repris les champs dont nous ne donnerons pas de nourriture. Puis après, il en rajoute Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Se réjouir, être dans l'allégresse. Donc la connaissance et la foi, elles permettent au prophète de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Elles permettent à Habacuc de réagir d'une façon différente. Hein, il ne cède pas à la panique, il ne s'énerve pas, il ne juge pas son peuple, il ne perd pas son temps en poursuivant des combats inutiles. Il se réjouit car il sait d'où vient son salut et il a la certitude que ce salut viendra. Son action, elle est précise, elle est efficace, elle est positive, elle est conforme à son espérance. À l'opposé, un croyant qui ne voit, qui voit le monde qui l'entoure qu'avec un regard négatif risque de se tromper de réaction. Et si vous avez peur d'un effondrement de notre société, la bunkérisation de votre logement ne devrait pas être la seule réponse à vos inquiétudes. Nous sommes appelés à nous élever, à aller plus haut et à avoir donc à ajouter à la connaissance, la foi, la patience, et bien avoir le cadeau que Dieu fait de la joie, l'espérance du salut. On va rajouter donc une dernière valeur, donc à la petite conclusion. Qui est-ce qui a... Ah ben voilà, c'est Patrick. Alors, vous voulez deviner ?
Tu as dit l'espérance, mais tu l'as dit.
La communion. Alors, la communion. Est-ce que vous avez remarqué que dans le livre d'Habacuc, on parlait de communion ? Eh bien, chapitre 3, verset 19, le dernier verset, puis on va prendre aussi le premier, il est écrit « Au chef des chœurs avec des instruments à cordes ». Ça veut dire que Habacuc a reçu une vision, une prophétie, sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Il a reçu un chemin, il a reçu une manière, comment il fallait réagir. Ça a été difficile avec Dieu, il a eu des combats. Et au chapitre 3, il va proposer une complainte au chef des instruments à cordes. Philippe, tu es le chef des instruments à cordes. Donc, on imagine notre brave Habacuc qui dit, ben voilà, le Seigneur m'a dit ça. Et puis, Et hop, il en fait une musique. En fait, tout le chapitre 3, c'est de la musique. Et donc, on voit que Habacuc, bien que Israël soit quand même dans un état moral déplorable, y compris le temple, va quand même se rapprocher, on va dire, de ses frères, dans la foi, de leur partager le message, et il va trouver dans le temple le chef des cordes, qui a une corde sensible dans son cœur, qui va être sensible à ce que va dire Habacuc et qui va le mettre en musique. Et puis du coup, de temps en temps, le jour du sabbat, on entend la trompette dans Habacuc. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple ? Il y a des gens qui viennent. Et bien, ces gens qui viennent vont entendre la manière, ce qui va se passer et comment il faudra qu'ils réagissent. Et parmi ces gens-là, eh bien, il y avait probablement quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Daniel, le prophète Daniel. Ben oui, vous savez Daniel 1, quand il arrive... le jeune Daniel qui est transporté en Babylonie, il arrive, il est dans la cour du roi, etc. etc. Comment ça se fait qu'il a pu avoir gardé la foi ? D'où ça vient ? Ben, ça vient de ce qu'il a entendu au temple. C'est-à-dire que Habacuc n'a pas cherché juste à se sauver lui-même, mais il a communiqué son message à ses frères et sœurs, et il a trouvé dans le peuple des gens fidèles qui vont garder ce trésor, et qui après va savoir se positionner de la bonne façon quand l'effondrement sera venu. Il fait une œuvre de formation. Ensuite, vous avez vu qu'il a laissé un écrit à Habacuc. Hein, on a parlé tout à l'heure d'écrire, hein, pour que les gens puissent s'en souvenir. Et il y a aussi ce verset 1, chapitre 1, message dont le prophète Habacuc a eu la vision. Et donc là, il faut aller dans le sens du mot hébreu Habacuc. Plusieurs sens. Le problème de l'hébreu, on a plusieurs traductions possibles, mais une traduction possible du mot Habacuc, c'est le mot étreinte. Et donc, on voit que loin de se séparer de son peuple, Habacuc, comme tous les prophètes, en fait, il va étreindre son peuple dans la difficulté. Même un peuple qui est pécheur, hein, même qui est détourné de Dieu, qui n'est pas parfait. Il va l'éteindre. Il va même partager sa souffrance et apporter l'espérance. Le prophète n'est pas appelé à la séparation, mais à la communion. Il demeure parmi son peuple. Ça, c'est un fondement de la vie du prophète. Tout un prophète n'est pas appelé à la séparation, mais à la communion. Il demeure parmi son peuple. Voilà pourquoi nous avions besoin de la communion. Alors, pour terminer, on va reprendre toutes ces valeurs. Hein, en fait, il faudrait presque demander aux gens qui ont porté ces valeurs de si vous voulez vous mettre vers le sac là-bas, puis voilà. Ouais, si vous voulez vous mettre vers Patrick, voilà, puis vous mettez la main sur ce sac, hein, avec les valeurs que vous avez apportées. Parce que, tout seul, on aura de la peine à avoir tout ça. Mais si chacun d'entre vous apporte un élément et que vous restez ensemble, finalement, votre conduite va être équilibrée. Car si vous agissez sans connaissance, vous allez vous tromper. Si vous oubliez la foi, vous allez déprimer. Si vous avez la foi et la connaissance, mais que vous n'avez pas la compassion, vous allez juger les autres. Si vous avez tout ça, mais que vous n'avez pas la communion fraternelle, ben vous allez vivre tout seul comme ermite dans votre coin, et puis du coup, finalement, vous ne formerez personne, vous ne préparerez personne à vivre des temps difficiles. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces valeurs ensemble, et la joie aussi. Hein, et voilà, peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus perché que les autres, et qui va se dire, on va se réjouir. On a besoin aussi. Hein. Et c'est ensemble, finalement, je pense pas qu'on puisse être tout seul avec toutes ces valeurs et cet équilibre. Mais par contre, si on demeure ensemble, conduit par le Seigneur, alors on peut avoir l'ensemble de ces valeurs, et ce sac, finalement, c'est finalement le sac de l'église locale, quoi. Hein. Alors, si on a toutes ces valeurs, la conclusion, elle a en deux diapos. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds pareils à des biches et il me fera marcher sur les lieux élevés. La dernière fois que j'ai été chez Sylvie, elle n'est pas la Sylvie aujourd'hui, hein, mais elle a un petit chat. Un petit chat. Et donc, bon, ben, j'ai bien sûr pas résisté à la tentation, même si je suis allergique, de prendre le chat sur mes genoux. Et à un moment donné, il a eu peur, il a bondi, il a passé sous le canapé, là. Tac, t'en souviens? Donc en fait, quelqu'un qui, comme des biches ou un chat qui a peur, et enfin, à ma condition de ne pas être obèse, hein, il fait un bond et il se met à l'abri. Eh bien, si nous voulons être comme des biches, et quand on est, quand le jour où on est perturbé, qu'on le soit ou qu'on le sera, et avoir cette habileté à bondir, à nous mettre à l'abri, à réagir positivement, alors nous avons besoin de faire du Seigneur notre force. Et c'est lui qui rend nos pieds semblables à ceux des biches et qui nous fait marcher sur des lieux élevés. Alors, quels sont les lieux qui ne sont pas élevés? Quels pourraient être nos adversaires? Eh bien, ça n'a pas marché. Eh bien, on peut avoir la peur. On peut avoir la crainte, on peut avoir l'isolement, on peut avoir un esprit de jugement. Tout ça, ce sont des choses qui pourraient, et donc il y avait des versets hein, qui soulignaient toutes ces choses, qui pourraient nous, finalement nous enfermer, peut-être même à notre insu, sans qu'on s'en rende compte. Mais si nous avons cette démarche d'Habakkuk, la connaissance, la foi, la patience, la compassion, la joie, la communion, alors on a cette promesse. Que le Seigneur rendra tes pieds pareils à ceux des biches et il te fera marcher sur les lieux élevés, que ce soit la part de chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Amen.